Une détente, mais pas de réconciliation en vue. À l'arrivée de Mussolini au pouvoir en 1922, un timide rapprochement s'était opéré au lendemain de la Première Guerre mondiale entre les libéraux au pouvoir et l'Église. Les catholiques réintègrent la vie politique dont ils s'étaient exclus, mais aucun accord concret n'est envisagé. Cette attitude de conciliation est poursuivie par le Duce, alors que l'Église compte sur le soutien des forces conservatrices du nouveau régime. Il poursuit dans la voie du rapprochement, même si pour Marianne Matar-Bonucci, spécialiste de l'Italie fasciste, rien n'allait de soi.
Mussolini, qui, ne l'oublions pas, était fortement anticlérical avant d'arriver au pouvoir, qui faisait donc des professions de foi contre l'Église, eh bien Mussolini, presque immédiatement, identifie en quelque sorte la tradition nationale italienne au catholicisme et prend un certain nombre de mesures déjà qui vont dans le sens d'un apaisement des relations avec l'Église. Dès 1925, il y a un certain nombre de contacts qui sont pris entre le Vatican et le gouvernement fasciste qui vont aboutir à ces accords.
Les gestes du gouvernement fasciste vers le Vatican se multiplient. Une réforme des lois ecclésiastiques dans un sens favorable à l'Église est adoptée. Et les crucifix et le catéchisme sont réintroduits dans les écoles. Les rapports s'apaisent, préalable à des négociations pour un traité. Elles débutent en 1926 pour aboutir 3 ans plus tard. Alors qu'il est en position de force, quelles sont les motivations de l'État italien pour accélérer la résolution de la crise? Pour l'historien Serge Bernstein, le prestige est la première d'entre elles.
Réussir là où les principaux dirigeants politiques italiens, à commencer par Cavour, avaient échoué, c'est-à-dire essayer de résoudre ce problème irritant de la question romaine qui faisait qu'un pays en très grande majorité, pour ne pas dire à presque unanimité catholique, se trouvait en fait au niveau de ses pouvoirs publics en conflit avec le pouvoir spirituel du pape, ce qui incontestablement gênait une très grande partie du monde politique italien. Donc dans le cas de Mussolini, la volonté, elle est double. Elle porte d'une part sur la nécessité de résoudre un problème qu'il a hérité de l'Italie libérale, mais également de la volonté de normaliser les relations avec le pape afin de diminuer l'influence de l'Église catholique à partir du moment où elle ne se sentirait pas obligée de se dresser aux côtés du pape pour lutter contre l'État italien.
L'Église, de son côté, ne peut que trouver un intérêt à la résolution d'un conflit qui l'a marginalisé et affaibli dans la vie politique italienne.
Une Église qui, elle, s'est sentie menacée au début du fascisme, et tout particulièrement à partir du tournant fascistissime de 1925-1926. Et donc le pape se dit qu'il faut pouvoir, dans le cadre de ce régime qui apparaît comme étant de plus en plus totalitaire, eh bien il faut pouvoir garantir la présence de l'Église dans la société. Et il y a probablement aussi l'idée de pouvoir utiliser le contexte de ce régime qui est un régime totalitaire, qui est un régime dictatorial, pour regagner du terrain par rapport au processus de laïcisation qui s'était opéré dans l'Italie libérale.
Le 11 février 1929, au palais du Latran à Rome, le cardinal Gaspari pour le pape et Benito Mussolini pour le roi d'Italie signent les accords du Latran. Ils comportent 3 conventions, la reconnaissance de la souveraineté du pape sur la cité du Vatican, un dédommagement financier versé par l'Italie au Saint-Siège et un concordat entre les deux parties. Le Vatican est désormais un État souverain. Le catholicisme est reconnu religion d'État en Italie, enseigné dans les écoles, et le mariage religieux à valeur civile. L'Église est donc la grande gagnante. Pourtant, la démarche de Benito Mussolini n'est pas dénuée d'ambiguïté dans son esprit et dans l'interprétation qu'il donne à ses accords.
Il accepte que les Italiens appartiennent au pape au moment de leur naissance, c'est-à-dire du baptême, et au moment de leurs obsèques. Et puis, entre les deux, il considère que le pape n'a pas à s'en mêler, autrement dit, que l'esprit des Italiens, et pas seulement les Italiens en tant que citoyens, appartiennent à l'État. Et il développe à partir de là une politique qui consiste à renier sur tout ce qui a été accordé en principe à l'Église aux accords du Latran, un effort particulier et consenti pour essayer de supprimer les organisations de jeunesse catholique, Mussolini souhaitant qu'il n'y ait qu'une jeunesse unique, celle qui est enrégimentée dans les organisations de jeunesse et même d'enfants du fascisme, où il s'agit d'élever toute une génération dans l'esprit fasciste.
Questa vita che è un'ostia di tali preghiere, il Signore sia concesso e quasi rinnovato
Pie XI voit dans ses accords la restauration de l'Italie à Dieu et de Dieu à l'Italie. Dans les faits, la tension ne cesse de monter entre le Vatican et le gouvernement italien. D'un côté, le pape critique certaines mesures fascistes. De l'autre, Mussolini ne veut pas qu'un parti catholique se reforme. Il rogne donc les avantages qu'il a octroyés à l'Église. Son régime totalitaire ne peut accepter aucun rival.
Dès 1931, il y aura un conflit entre l'Église catholique et l'État qui montre que les accords du Latran n'ont rien réglé sur le fond, puisque le but du fascisme, c'est au fond de supprimer toutes les organisations temporelles de l'Église catholique et de maintenir l'Église et ses prêtres dans la sacristie. Mussolini réagira avec une extrême violence en tentant de soumettre toutes ces organisations, ce qui entraînera l'encyclique pontificale de 1931, Non abbiamo bisogno, et par conséquent la condamnation de ce que Pie XI appelle la statolatrie du fascisme.
Les accords du Latran conservent néanmoins toute leur importance en donnant à l'Église une reconnaissance juridique internationale qui assure son autonomie.
C'est un traité qui a une réelle importance, qui est symbolique, en ce sens que ce qui est bien symbolique, c'est qu'il y a un rétrécissement effectivement des états de l'Église par rapport à ce qu'ils étaient donc avant l'unité italienne sur la cité du Vatican. L'Église ne garde désormais qu'une portion de territoire, mais qui lui permet néanmoins d'exister comme État et de pouvoir traiter, le cas échéant, d'État à État avec d'autres puissances.
Ces accords du Latran auront donc été un jeu de dupes pour les deux parties signataires. Mussolini n'aura pas réussi à fasciser l'Église, pas plus que l'Église n'aura christianisé le fascisme. La République italienne confirmera cependant les accords du Latran au lendemain de la guerre, entérinant la naissance de l'État du Vatican. Seule la partie concordataire du traité est toujours sujet à modification et à débat, dans un pays où les relations entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel sont toujours délicates.